Place Info.
Bonsoir. À la une, le discours martial d'Emmanuel Macron contre l'hydre islamiste après l'attaque terroriste à la préfecture de police de Paris. Christophe Castaner, fragilisé mais aussi auditionné. Un regard enfin sur la deuxième édition de Médias en scène, un partenariat France Info, Les Échos, c'est dans Les Informés avec Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de la ruchemedia.com, avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, et avec Thomas Clay, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1. Nous sommes ensemble, bonsoir à tous d'ailleurs, nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Il aura voulu marquer les esprits. Emmanuel Macron a donc appelé les Français à faire bloc pour en venir à bout de l'hydre islamiste lors de l'hommage rendu ce matin aux quatre fonctionnaires tués dans l'attaque terroriste à la préfecture de police de Paris.
Les institutions seules ne suffiront pas. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Non. C'est la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. Nous ne l'emporterons que si notre pays, qui est venu à bout de tant et tant d'épreuves dans l'histoire, se lève pour lutter contre cet islamisme souterrain qui corrompt les enfants de France.
Yasmina Jaffar, l'hydre islamiste.
Oui, toute la journée j'ai pensé à Arnaud Beltrame parce que ça m'a rappelé un petit peu l'émotion qu'il y avait autour de ce discours, un très très beau discours où pour la première fois un président de la République nommait les choses quand il avait dit barbare, quand il avait dit islamiste, et là il parle de l'hydre. Je crois que c'est pas la première fois qu'il prononce ce mot. C'est ce qui menace l'ordre établi, et il indique là qu'il faut faire bloc, et il est, on le voit quand il était face aux quatre cercueils, avec un visage extrêmement grave. À l'époque d'Arnaud Beltrame, il était évidemment, comme tout le monde, touché. Il y avait une vraie union. Et là, on sent que l'Union nationale se disloque un petit peu. Il y en a assez de ces attaques. Et là, il agit de façon très forte pour que nous soyons unis. Et son discours était assez incroyable en parlant de société de vigilance et en parlant de l'hydre et en employant quatre fois terrorisme islamiste. Et je trouve ça très intéressant.
Thomas Clay, expression sans complaisance.
Oui, l'hydre, dans la mythologie, on s'en souvient, c'est un des 12 travaux d'Hercule. C'est Hercule qui arrive au bout de ce monstre, parce que l'hydre est un monstre. Et donc, je crois qu'il nomme bien les choses lorsqu'il fait cette référence-là. Et on sait que le président Macron est un habitué des références culturelles. Donc là, c'est aussi cela qu'il faut entendre. Alors, je ne dirais pas qu'il se compare à Hercule, puisqu'il ne dit pas qu'il va y arriver lui. Il dit au contraire que c'est la société française qui réunit, peut essayer de l'emporter sur ce monstre. Quant à savoir si on doit passer à une société de vigilance, c'est-à-dire la société française réunie dans une société de vigilance, c'est effectivement l'autre partie du discours, et c'est peut-être une avancée, ou en tout cas un changement important de paradigme dans le discours sur le terrorisme.
Sophie de Ravinel, vous diriez que c'est un discours à la hauteur de l'attaque terroriste, du drame survenu à la préfecture de police de Paris ?
Oui, a priori, c'est un discours qui est largement à la hauteur. Je crois qu'il a été reconnu comme tel par tous les observateurs, même si dans l'hémicycle politique ensuite les critiques se font entendre. Je crois que là il y a eu un moment d'union nationale, et d'ailleurs c'est sans prononcer exactement cette expression-là, hein, c'est ce qu'a appelé évidemment Emmanuel Macron. Ce n'est pas le temps de la politique, c'est le temps de l'union, et c'est le temps de dénoncer cet hydre. Je dirais un mot sur cet hydre, parce qu'en fait ce qui est terrible avec cet animal, c'est que si je ne me trompe pas et si ma mémoire est bonne, ses têtes se reforment
au
fur et à mesure. Mais ce qui est terrible, c'est-à-dire que ce sont les différentes faces d'un islam qui dévoie les enfants de France. Et donc, dans cet esprit de l'union qui corrompt les enfants de France, il a appelé à la vigilance et non pas au soupçon. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est soucieux, évidemment, de ne pas dénoncer une religion, ça il l'a dit explicitement, mais de bien nommer les choses.
Roselyne Fèvre.
Moi, j'aimerais comprendre ce que cette société de vigilance veut dire. Donc, il le dit, l'État ne pourra pas tout, les institutions ne pourront pas tout. Mais ça veut dire quoi, effectivement, une société de vigilance? Est-ce que ça veut dire que, concrètement, vous allez avoir un voisin qui se met à porter la djellaba, qui se met à avoir la barbe un peu plus longue, qui ne veut plus serrer la main des femmes? Vous faites quoi? C'est pour ça, il a raison de parler de l'ère du soupçon également, mais il y a aussi l'idée de délation. N'oublions pas que nous sommes un pays quand même qui avons été collaborationnistes. Oui. Donc l'idée de délation en France, c'est un sujet avec lequel on n'est pas tout à fait à l'aise. Donc il faudrait peut-être qu'on nous explique ce que c'est que cette société juridiquement de vigilance. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller dénoncer son voisin? À mon avis, c'est une question qui mérite là-dessus quand même d'être creusée.
La question est effectivement extrêmement pertinente et puisque vous employez le mot juridiquement, moi, en tout cas, ça me fait penser à un élément qui est sur les 20 ou 30 dernières années, on a multiplié les lois antiterroristes, parfois des lois avec des connotations liberticides, et au fond, toutes ces lois, le bilan qu'on en tire aujourd'hui, c'est qu'elles n'empêcheront jamais un collègue de bureau qui a décidé d'égorger son voisin de bureau parce que c'est ça qui s'est passé. Donc il faut passer à autre chose que ces lois liberticides, il faut passer à quelque chose qui relève plus de la solidarité, et c'est comme ça que je comprends le devoir de la société de vigilance, la solidarité, l'entraide, et peut-être pas nécessairement la délation.
On va peut-être écouter l'extrait dans lequel le président de la République évoque cette société de vigilance.
Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance, et non le soupçon qui corrode. La vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable des consciences. C'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République, une séparation.
Voilà donc la vigilance et non le soupçon, a déclaré ce matin le chef de l'État, Sophie Dravinel et Yasmina Jaffar. Je vais vous faire réagir également à cette idée selon laquelle il faudrait rester vigilant, citoyen vigilant face aux menaces terroristes. Pour l'heure, 20h10 sur France Info. Nous marquons une pause. Le rappel de l'info avec vous, Armel Balogog.
Des manifestants avec des masques à gaz, vêtus de blanc, salis par des suies. Une image forte de la mobilisation ce soir à Rouen. 800 personnes demandent la transparence après de deux semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol. L'enquête sur le site commence aujourd'hui. Marine Le Pen monte au créneau après l'attaque à la préfecture de police de Paris. Si Édouard Philippe assume tout, il doit démissionner, martèle la chef du Rassemblement national sur RTL. Elle réagit aux propos du Premier ministre lors des questions au gouvernement à l'Assemblée. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a aussi dû s'expliquer aujourd'hui devant la commission des lois. Il affirme que la policière blessée pendant cette attaque va bien, elle est sortie de l'hôpital. Aux États-Unis, près d'un million d'interpellations à la frontière avec le Mexique en seulement un an. De nombreux centra-américains essaient de fuir la violence de leur pays. En football, les Bleus s'imposent face aux Kazakhs. 3-0. C'est le premier match des qualifications pour l'Euro féminin de football en 2021.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Sophie Dravinel, repérée à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement d'avec les lois et valeurs de la République. Qu'est-ce que cela signifie techniquement selon vous?
Ça signifie que, je pense, Emmanuel Macron a voulu mettre le doigt sur les dysfonctionnements qui ont eu lieu au sein de la préfecture de police, c'est-à-dire des remarques qui auraient dû remonter plus haut qu'elles ne l'ont été. Et en même temps, c'est aussi quelque chose de très compliqué. Et c'est là où je vous rejoins dans cette analyse de la complexité de la situation, c'est-à-dire qu'on a vu, après 2015, dans les cours d'école, des professeurs dénoncer tel élève parce qu'ils avaient lancé des appels au terrorisme ou autre, ou des invocations vocation religieuse qui n'avaient pas leur place. Et c'est extrêmement difficile de savoir comment agir dans ces conditions-là. Et en même temps, je pense que cet appel à la vigilance est important, parce qu'il peut faire remonter des éléments qui nourrissent les renseignements. Mais peut-être qu'on pourrait commencer, et ça on en parlera peut-être dans la suite de l'émission, à insister sur quand un imam, par exemple, a une obligation de quitter le territoire, comme c'était le cas pour celui auprès de qui priait l'assaillant, eh bien cette obligation de territoire, qu'elle soit enfin mise en place. Et peut-être que ça, ce serait déjà pas mal.
Oui, avec l'imam de Gonesse, nous l'évoquerons d'ailleurs dans la deuxième partie des Informés de France Info. Nous serons en ligne depuis l'Assemblée nationale avec François Pouponi, le député du Val-d'Oise, qui est concerné par cet imam en question. Yasmina Jaffar, vous êtes comme Roselyne Fay, ça vous inquiète un petit peu, cet appel à la vigilance?
Non, pas aujourd'hui, justement, c'est pour ça que j'entends le questionnement et il faut le poser.
Mais c'était une question concrètement.
Ça vous interpelle?
Oui, mais aujourd'hui, le discours qui a été fait aujourd'hui est un discours vraiment lié à l'Union. L'exercice auquel s'est livré ensuite Castaner, il y a eu cette question d'un député qui a dit, est-ce que si jamais nous avions une barbe trop longue, si jamais nous portions une djellaba, est-ce que nous serions signalés? Donc il y a un temps pour chaque chose, et ce discours-là ne correspondait pas du tout à une polémique quelle qu'elle soit. Et quand il dit repérer ces petits riens qui deviennent de grandes tragédies, ce qui vient abîmer la sève de la République, j'entends moi en effet, je suis d'accord avec Thomas Clay, une véritable union. Et il va y avoir après le temps du signalement automatique qui sera mis en place par la mission d'Edouard Philippe. Et là, il faudra poser ces questions-là. Mais ce matin, c'était vraiment au contraire, et on en a besoin, pas d'amalgame avec l'islam, pas d'amalgame avec tout ce qui a pu générer une dislocation de l'Union. Et c'est vraiment très important de le rappeler aujourd'hui. Ça a été, je pense, un grand discours.
Alors ce discours, justement, on en rappelle peut-être un autre prononcé par Manuel Valls. Nous sommes le 13 janvier 2017. Le Premier ministre rend alors hommage à l'Assemblée nationale 2015, pardonnez-moi, rend hommage à l'Assemblée nationale. Nous sommes en janvier 2015, évidemment, après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher.
Il faut toujours dire les choses clairement. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. La France n'est pas en guerre contre une religion. La France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans.
Thomas Clay, donc janvier 2015, il faut le rappeler, il y a une forme de similitude entre ces discours à quelques années d'intervalle.
En tout cas, si la France est en guerre, elle mène le combat, notamment avec son service de renseignement. Et ce qui est absolument incroyable dans notre histoire, c'est que le service de renseignement chargé de vérifier l'infiltration par les islamistes est lui-même infiltré par les islamistes. On dirait, si j'osais, un mauvais épisode du bureau des légendes. Et on s'aperçoit d'ailleurs que, parce que maintenant les informations remontent, et c'est facile à dire a posteriori, que c'est l'ensemble de cette préfecture de police, la PP, qui dysfonctionne. Je rappelle, la préfecture de police à Paris, c'est 46 000 personnes. Ouais. C'est l'équivalent, je le dis en votre présence, d'une ville comme Ajaccio, par exemple. Un peu plus, 52 000 Ajaccio. Il y a 800 personnes au service de la direction du renseignement de la préfecture de police. On a une espèce de mastodonte ici qui est censé mener cette guerre dont parlait Manuel Valls et qui est infiltré en son sein.
Supposément infiltré.
Mais qui l'amène cette guerre.
Supposément, il y a quand même 5 victimes. Enfin,
c'est un chemin qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui.
Voilà, et c'est vrai que je pense que cette guerre n'est pas bien menée.
La question est de savoir s'il y a d'autres infiltrations, c'est ce que je voulais dire.
Je voudrais juste terminer sur la DRTT parce que si on fait des comparatifs par rapport à ce qui se passe dans d'autres services de renseignement, notamment la DGSE, la DGSI, on s'aperçoit aujourd'hui, on a les informations qui remontent, qu'en réalité c'est beaucoup plus contrôlé et que les agents sont beaucoup plus contrôlés. Donc il y a effectivement un dysfonctionnement manifeste dans ce service.
Sophie Drevinel.
Oui, il y a un dysfonctionnement manifeste, mais je dis, le travail est vraiment mené. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit ce matin, il y a 59 attentats qui ont été déjoués. Je ne pense pas que l'action de l'État en la matière soit remise en cause, mais c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant. Et tout le monde a conscience de la béance énorme ou de la faille en fonction... Et c'est surtout ce qu'on a trouvé comme élément chez lui, dans ses clés USB ou à son bureau, qui laisse entendre que ce garçon était beaucoup plus engagé dans son combat et que des éléments très troublants ont été retrouvés chez lui, notamment concernant de futures victimes potentielles, puisqu'il y a des noms, des listes de noms qui ont été retrouvés. Et là, je crois qu'il y a...
Alors, justement, il était chargé de la maintenance informatique, donc il avait accès aux informations.
Il avait accès à tout.
Les ordinateurs des autres.
Oui. Alors justement, les différentes auditions en cours sont censées apporter des éléments de réponse à toutes ces interrogations. Interpellé à l'Assemblée nationale aujourd'hui sur, on va dire, ces auditions à répétition, le ministre de l'Intérieur est revenu sur celle devant la délégation parlementaire au renseignement ce matin. Il a déjà fixé la limite.
Toutes les questions qui nous ont été posées ont trouvé réponse dans la mesure où nous avions ces éléments de réponse. Mais je dois, monsieur le député, vous rappeler qu'il y a deux cadres avec lesquels nous ne pourrons pas transiger. Le premier, c'est évidemment celui de ne pas empiéter sur l'enquête judiciaire qui est placée sous l'autorité du procureur national antiterroriste. Et le second, qui est une évidence, j'en suis convaincu pour chacune et de chacun d'entre vous, c'est d'avoir en tête que nous touchons à des sujets qui relèvent du secret défense.
Roselyne Febvre, c'est déjà une frontière qui est inscrite. Hein. Il y aura des choses qu'on ne pourra pas dire lors de ces auditions.
Oui, bien sûr, c'est de l'obscur, hein, de secret défense. Donc, vous l'avez dit, ça va être un marathon de commissions. Il y en a eu une ce matin, il y en a eu cet après-midi.
La commission des langues, on entendra un extrait dans un instant. Oui.
Il y en aura une la semaine prochaine.
Il y a une commission d'enquête parlementaire la semaine prochaine.
Voilà, ça fait un peu beaucoup, mais bon, le sujet est grave. Mais déjà, on sait ce qui a été annoncé tout à l'heure, c'est qu'il y aura une habilitation secret défense qui sera revue régulièrement, c'est-à-dire tous les ans, et les signaux faibles de radicalisation qui devront être signalés par la hiérarchie. Mais je voudrais ajouter, tout à l'heure, on parlait effectivement de ce que voulait dire cette société de vigilance. Alors c'est vrai qu'il existe quand même des outils. Rappelez-vous, en 2014, il y avait eu un numéro vert qui avait été mis en place pour des familles qui seraient touchées par des départs en zone irako-syrienne, et il y avait eu 60 000 appels en 4 ans. Est-ce que le gouvernement va
Ça n'avait pas très très bien fonctionné.
Bah non, c'était 60 000 appels en 4 ans, ce qui est extrêmement peu. En tout cas, on voit bien aujourd'hui que le gouvernement saisit l'importance. Alors, ce que certains appellent un scandale d'État, moi j'irai pas jusque là, je pense que c'est un scandale administratif, parce que dans le fond, il y a une espèce de
dysfonctionnement d'État, comme l'a dit Christophe Castaner.
Vous validez cette expression? Un scandale d'État. Je pense que c'est un scandale administratif.
Catastrophe. Oui. Voilà,
Pourquoi c'est, alors que franchement, rappelez-vous, moi jeudi soir j'étais sur votre plateau, tous les journalistes, et moi j'avais discuté avec un journaliste de chez nous qui est spécialiste justice, on savait tout, que cet homme ne serrait plus la main des femmes, qu'il était radicalisé, à 20h on avait toutes les informations. Comment expliquer effectivement que le ministre de l'Intérieur n'ait pas voulu ou ait parlé trop vite pour apaiser les esprits? C'est vrai que c'est un questionnement. De là à demander sa démission, je pense que l'opposition manque quand même de suite
décence.
Dans les idées. Non, mais c'est pas ça. Mais
oui,
c'est peut-être autre chose, dans un moment si grave, de demander des démissions. Dans le fond, à quoi ça sert? Personne ne se souviendra qui était ministre de l'Intérieur.
Oui, c'est la continuité de l'État.
Il y a 30 ans. Tout le monde se souviendra de ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout le monde se souviendra de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Ça, c'est gravé dans nos mémoires. De savoir qui était le ministre de l'Intérieur, franchement, c'est pas le sujet et ça, c'est pas à la hauteur des enjeux.
Allez, nous marquons une pause. 20h et 21 minutes. Pardon pour le retard. Le rappel de l'info avec vous, Armel Balogog.
6 policiers sont en garde à vue en Seine-Saint-Denis. Ils sont soupçonnés d'actes de torture lors d'une interpellation en août dernier. Un jeune homme dit avoir reçu des coups de taser dans les parties génitales. Il a aussi reçu plusieurs coups au visage. Scène filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. 40 individus radicalisés, écartés ou suivis au sein de la police, chiffre dévoilé par Christophe Castaner ce soir devant la commission des lois de l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur rendait compte après l'attaque à la préfecture de police de Paris. Le secrétaire d'État Laurent Nunez est aussi auditionné. Il rappelle que pour l'instant, il n'y a aucune revendication connue. Les actions des agriculteurs sont maintenant terminées. Ils ont bloqué plusieurs axes importants près de Toulouse et de Belfort. Des manifestations dans toute la France pour dénoncer l'agribashing, les arrêtés anti-pesticides et les traités de libre-échange. Les négociations sur le Brexit sont au bord de la rupture. Aucun progrès n'a été fait aujourd'hui lors des discussions à Bruxelles. Le président du Parlement européen le déplore et celui du Conseil européen accuse Boris Johnson de jouer avec l'avenir de l'Europe.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous reviendrons dans la deuxième partie des informés, si vous le permettez, à ces appels successifs répétés au sein de l'opposition à la démission du ministre de l'Intérieur. Mais je voudrais que l'on revienne sur le contenu des auditions qui sont en cours. Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste du Loiret, qui est vice-président de la commission des lois du Sénat, qui auditionnera Christophe Castaner jeudi, invité du 18-50 France Info, entend bien poser toutes les questions au ministre de l'Intérieur.
Moi, je pose une question à M. Castaner, je lui poserai directement. Voyez-vous, par rapport à ce qui s'est passé, la première conséquence, d'ailleurs, le Premier ministre a annoncé une enquête. Ça va être, dans les 7 services de renseignement, de tout passer au peigne fin, de vérifier qu'il n'y a pas d'autres personnes.
Aujourd'hui,
oui. Des personnes radicalisées, infiltrées.
Yasmina Jaffar, tout passer au peigne fin, les 7 services de renseignement, nous dit Jean-Pierre Sueur, qui est un fin connaisseur de ces milieux-là. Nous sommes face quand même à une vaste énigme.
Oui, et c'est assez intéressant de voir comment les questions ont été posées tout à l'heure. C'était très intéressant, beaucoup moins virulent en effet. Par exemple, je prends le cas d'Éric Ciotti qui était beaucoup moins virulent que sur les plateaux de télévision et Éric Castaner a su lui répondre avec, c'était assez drôle, c'était avec finesse. Et Monsieur Castaner s'est montré vraiment en chef des troupes, il a voulu se montrer rassurant. Il a enlevé sa veste comme a pu le faire Emmanuel Macron à une époque et il appelait son collègue Laurent. Donc il y avait quelque chose d'une envie de transparence totale et envie aussi de répondre à toutes les questions et les questions, et ça très intéressante et pas simpliste, qui touchait du doigt vraiment la difficulté qu'on a là. C'est un véritable scandale administratif ce qui s'est passé et on a envie d'avoir des réponses et de toute évidence, l'exécutif a envie de donner des réponses de la façon la plus transparente possible sur un sujet extrêmement délicat qui est en effet la radicalisation et l'infiltration des radicalisés dans les services publics.
Ouais, Thomas Clay.
Oui, moi, ça m'amène à une réflexion plus générale sur le fonctionnement de la démocratie. Et au fond, on s'aperçoit que maintenant, les ministres doivent rendre des comptes très rapidement à des commissions parlementaires. Christophe Castaner a été entendu ce matin par la délégation au renseignement, ensuite par la commission des lois, commission des lois à l'Assemblée nationale. Il sera entendu après-demain la commission des lois du Sénat. Et je trouve que...
Vous trouvez que ça va trop vite?
Non, pas du tout. Je trouve exactement le contraire. Mmh. Je pense que c'est bien qu'ils rendent des comptes dans les commissions parlementaires. On assiste un peu à une sorte d'américanisation du Parlement. C'est-à-dire que les commissions parlementaires américaines sont très puissantes. On a un Parlement qui est en France structurellement impotent ou très peu puissant. Et là, on a vraiment, véritablement, un travail politique qui est intéressant, qui est immédiat. Mmh. Ça ne sera pas justement dans 6 mois, dans 1 an. Mmh. Alors, il ne faut pas... Et on a vu un peu les dérives de cela dans l'affaire Benalla, où la commission parlementaire du Sénat, la commission des
lois... Audition en spectacle, c'est ça.
Spectacle, c'est un peu investi...
Le sujet s'y prêtait.
En juge, en donneur de leçons, le président de la commission des lois du Sénat, on va voir, puisque c'est lui qui reçoit Christophe Castaner après-demain, s'il a un peu tempéré ses ardeurs, Philippe Bas. Mais voilà, je trouve ça bien que ces commissions parlementaires demandent des comptes sans s'investir d'un rôle de juge qu'ils n'ont pas, mais en essayant de comprendre le fonctionnement ou le dysfonctionnement de la démocratie et de l'administration.
Et justement, un extrait de l'audition de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, c'était devant la commission des lois de l'Assemblée nationale.
À l'heure actuelle, d'après les informations dont nous disposons et qui proviennent d'un rapport de la directrice du renseignement de la préfecture de police, nous n'avons connaissance que d'un signalement informel potentiel en juillet 2015, quelques mois après un commentaire de l'assaillant sur l'attentat de Charlie Hebdo. Je ne commenterai pas plus avant, mais il semble, d'après les éléments dont me fait part la directrice du renseignement de la préfecture de police, que ce témoignage n'a pas été formalisé et n'est pas parvenu au bon niveau hiérarchique. Il n'y a aucune trace écrite, à l'heure où je vous parle, de ce signalement, et ni dans le dossier administratif de l'agent, ni dans les témoignages que nous avons recueillis immédiatement sur place, ce sujet n'était présent.
Sophie Dravinel, avant la pause, nous sommes dans la mécanique des choses.
Oui, nous sommes dans la mécanique des choses, nous sommes aussi dans une tension qui s'était vue en 2015, qui se voit encore aujourd'hui, qui va se voir encore plus peut-être demain, qui est cette tension entre la question de la sécurité et celle des libertés publiques. Et ça, c'est un vrai dossier, c'est une vraie question, c'est une vraie difficulté. Est-ce que, ou jusqu'où les Français sont-ils prêts à aller en matière de sécurité et jusqu'à disons, perdre en matière de liberté publique. Je crois que là, il y a un vrai dossier. Vous parliez de démocratie, je crois que nous sommes vraiment en plein là-dedans. Et je crois aussi qu'il faut se rendre compte qu'il y a une vraie bataille culturelle. Je dirais, j'emploierai pas le terme de guerre comme Manuel Valls, mais il y a une vraie bataille culturelle à mener contre cet islam radical, et que ce ne sont pas seulement ces commissions et toutes les lois qui peuvent être revues ou corrigées qui rassureront les Français.
Allez, il est presque 20h28 sur France Info. Nous allons revenir dans la deuxième partie des informés sur évidemment ces événements, avec notamment en direct François Pupponi, qui est le député de Sarcelles, qui évoquera cet imam de Gonesse qui a été mis en cause dans cette affaire. Il est 20h28, la météo, le rappel de l'info, et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite des informés.
Mercedes-Benz.
Hey Mercedes, tu peux baisser la température ? Hey Mercedes, il y a un fleuriste ouvert dans le coin. Hey Mercedes, il fait quel temps à Marseille ce week-end ?
Le temps sera ensoleillé avec une température comprise entre 16 et 20 degrés.
Vous voyez, on peut tout demander à Mercedes. Surtout en ce moment. Des offres exceptionnelles vous attendent sur de nombreux modèles de la gamme chez votre distributeur Mercedes-Benz. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut encore vous retenir de rouler en Mercedes ?
Conditions sur mercedes-benz.fr.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile France Info.
France Info, et tout est plus clair.
France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
La météo, les prévisions de Météo France avec vous, Élodie Calac.
Un temps agité demain, ce soir et cette nuit, les pluies glissent vers le sud et l'est. Demain matin, on retrouvera quelques gouttes du sud-ouest à l'Auvergne. Des pluies plus soutenues du Jura vers le Lyonnais et le nord des Alpes. Ailleurs, ce sera souvent bien nuageux. Le soleil se montrera un peu plus sur la Provence, la Côte d'Azur et l'est de la Corse. En revanche, sur les régions allant du nord-ouest jusqu'aux frontières du nord, on aura droit à quelques averses, déjà plus fréquentes et orageuses près de la Manche. Il fera plutôt doux, 10 à 15 degrés. L'après-midi, il pleuvra sur le nord des Alpes jusqu'aux Hautes-Alpes. Sur la moitié nord, jusqu'au massif central. Là, ce sera agité avec des averses, des orages, du vent, surtout près de la Manche. Autour de la Méditerranée, près de l'océan et sur le sud-ouest, ce sera plus calme avec une rare averse, des éclaircies plus durables. Il fera 14 degrés à Lille et Nancy, 15 à Paris, 17 à Rennes, à Lyon, 20 à Bordeaux et encore 24 degrés pour Montpellier ou Ajaccio.
Et 20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Christophe Castaner sous le feu nourri des questions des députés de la commission des lois à l'Assemblée après la tuerie de la préfecture de police. Le ministre de l'Intérieur qui indique ce soir que 40 fonctionnaires radicalisés ont été repérés au sein de la police. La moitié d'entre eux l'auraient quitté, les autres sont sous surveillance. Après l'hommage rendu ce matin sur les lieux du drame à la préfecture de police de Paris, notamment en présence d'Emmanuel Macron, 4 fonctionnaires tué jeudi dernier. L'enquête, elle se poursuit. 160 policiers sont mobilisés. Ils doivent analyser l'ensemble des supports informatiques saisis au domicile de Michael Harpon, l'auteur des coups de couteau, mais aussi la clé USB découverte sur son lieu de travail à la direction du renseignement. David Di Giacomo.
Cette clé USB saisie dans le bureau de Michael Harpon contient des milliers de données. Pour les analyser au plus vite, la brigade criminelle a même dû solliciter d'autres services de la police judiciaire parisienne. Des vidéos de propagande de l'État islamique ont déjà été retrouvées sur cette clé, mais aussi des données personnelles de policiers de la direction du renseignement. Pour autant, les enquêteurs ne savent pas si le tueur avait stocké ces informations dans le cadre de son travail d'informaticien ou s'il avait recueilli ces données dans le but de les utiliser à des fins personnelles ou pour les transmettre à des personnes de son entourage. Les policiers continuent à analyser cette clé USB, mais aussi tout le reste du matériel informatique retrouvé à Gonesse, au domicile de Michael Harpon.
David Di Giacomo, quelles sont les causes et l'origine de l'incendie de l'usine Lubrizol ? Les investigations ont débuté sur le site de Rouen. 130 plaintes ont déjà été déposées par des habitants, entreprises ou communes touchées par les conséquences de cette catastrophe. Quant aux premiers résultats d'analyse, ils montrent que les taux relevés sous le panache de fumée le soir de l'incendie sont 4 fois plus élevés que la normale. 700 personnes environ ont défilé aujourd'hui pour réclamer toute la transparence dans cette enquête. Les retraités toujours mobilisés pour l'augmentation de leur pension. Ils ont manifesté un peu partout en France. Aujourd'hui, à Paris, plusieurs centaines de personnes ont quitté le secteur de Montparnasse pour rejoindre les Invalides. Un homme de 44 ans condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur les forces de l'ordre. Il avait été arrêté ce week-end en marge de l'occupation d'un centre commercial à Paris par des militants écologistes du groupe Extinction Rebellion. Près de 300 salariés ont bloqué l'accès à leur usine générale électrique de Belfort et notamment la production d'une turbine à gaz géante. Ils protestent contre le plan de restructuration de la direction du groupe américain. Presque un an après le drame de la rue d'Aubagne à Marseille, un rapport préconise une simplification des procédures pour mieux lutter contre l'habitat indigne. 4 à 800 000 logements, d'après le rapport, seraient insalubres ou dégradés en France. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, suite et fin, Jean-François Aquili.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de laruchemedia.com, avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, avec Thomas Clé, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1. Nous poursuivons notre traitement de cette attaque terroriste à la préfecture de Paris avec cette série d'auditions à l'Assemblée nationale. Et il y a aussi eu cette interpellation aujourd'hui dans l'hémicycle lors des questions au gouvernement. Bonsoir à vous, François Poupogne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député socialiste du Val-d'Oise, hein, ancien maire de Sarcelles. Alors vous avez vous-même interpellé, je crois que c'est Laurent Nunez, hein, le secrétaire d'État à l'intérieur, à propos de l'imam salafiste de Gonesse. François Pouponi, c'est celui-là même avec lequel Michael Larpon a été en contact?
Ben, visiblement, moi j'ai découvert ça à travers la presse, et le hasard fait que cet imam a été un jour à Sarcelles, qu'il a posé des difficultés compte tenu de son attitude, et que les responsables de la mosquée de Sarcelles l'avaient licencié compte tenu de son attitude, et que les services de renseignement territoriaux avaient considéré qu'il avait une attitude qui permettait de le renvoyer dans son pays, puisqu'il est marocain, et donc il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 15.
On vous entend assez mal, François Pouponi. J'espère que la liaison n'est pas fragilisée. Est-ce que vous pourriez poursuivre ce récit? Vous disiez à l'instant donc que ce religieux était susceptible d'être expulsé de France.
Oui, la préfecture avait décidé de lui remettre ce qu'on appelle une obligation, une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Mais visiblement, cette obligation n'a pas été mise en œuvre et les services de l'État n'ont pas été jusqu'au bout de cette procédure qui lui ont pourtant été notifiée. Et c'est la question que j'ai posée au ministre tout à l'heure. Comment est-il possible qu'un imam radicalisé, et c'est les services de renseignement qui le disent, à qui on notifie une obligation de quitter le territoire français en 2015, est toujours là en 2019.
Est toujours là en place. Pour vous, il s'agit là d'une faille du système de surveillance dans ce pays?
Alors, c'est pas du système de surveillance, là. Les services de renseignement ont bien fait leur travail. Ils ont signalé la dangerosité de cet imam. Ils ont demandé aux services préfectoraux de procéder, au ministère de l'Intérieur de procéder à une expulsion. Et en fait, cette expulsion n'est jamais intervenue. Alors là, pour le coup, ce ne sont pas les services de renseignement qui sont en cause. C'est tout simplement les services administratifs qui doivent mettre en œuvre cette mesure. Et ça n'a pas été fait. Donc c'est ce qu'il faut essayer de comprendre, pourquoi des mesures comme cela ne sont pas appliquées et où se trouve le dysfonctionnement.
François Pupponi, vous m'avez enlevé le mot de la bouche, vous êtes parlementaire de la République, il y a là dysfonctionnement, comme l'a expliqué le ministre de l'Intérieur. Ce sont des dysfonctionnements, on en est encore là. Hein.
Bien sûr, une mesure est prise, on décide d'expulser quelqu'un compte tenu de sa dangerosité, et la mesure n'est jamais appliquée administration compétente. Et donc, ça s'appelle un dysfonctionnement majeur, ça s'appelle une faute. Et donc, il faut bien comprendre pourquoi c'est arrivé pour que plus jamais cela n'arrive. Et c'est ce que devra faire le gouvernement. Aujourd'hui, moi, ce qui me gêne dans la polémique, c'est qu'on met en cause les services de renseignement. Ils n'auraient pas su, c'est peut-être le cas par rapport au drame de la préfecture de police. Mais il n'y a pas que ça. Il y a globalement l'ensemble de la machine administrative qui, à un moment, dérape, n'applique plus les règles et ne suit plus les dossiers. Donc il faut, comme l'a dit le président République ce matin, que tout le monde se ressaisisse et qu'on soit capable d'appliquer, de suivre ces dossiers et de le faire avec rigueur.
Allez, on a entendu le message. Merci à vous, François Pupponi, d'avoir été en direct depuis l'Assemblée nationale dans les informés de France Info pour apporter cet éclairage. Vous vous êtes extrait de discussion en ce moment même du projet de loi de finances. Sophie de Ravinel, apparemment, les dysfonctionnements dont il est question dépassent nettement le seul cas des services de renseignement.
Oui, bien entendu. Comme dirait, pour reprendre l'expression de Christophe Castaner, à l'heure où nous parlons, puisque faut faire preuve d'une grande prudence sur ces sujets-là, mais c'est évident que cet attentat terroriste, puisqu'il s'agit bien de cela, va réveiller sans doute et mettre à jour un certain nombre de dysfonctionnements, et c'est quand même vraiment regrettable qu'on doive en arriver là pour que ça puisse évoluer. On espère que là, ce sera vraiment efficace, qu'il va y avoir des vraies mesures qui vont être mises en place, mais c'est absolument désolant que la situation en soit là où elle en est. C'est presque décourageant.
Roselyne Fèvre, vous seriez pessimiste également. Apparemment, certaines décisions administratives ne sont pas appliquées.
Bien évidemment. Mais là où les choses... Alors, on peut pleurer sur l'air renversé. Parfois, ça sert. Des drames sont là, des épreuves sont là pour qu'on les corrige et qu'on fasse autrement.
Il y a eu 4 morts, oui.
Bien évidemment, mais c'est un drame. Mais peut-être peut-on en tirer pour éviter qu'il y ait d'autres drames. Mais peut-être qu'il faudrait que le culte musulman prenne aussi ses responsabilités. Aujourd'hui, souvenez-vous, en Angleterre, il y avait un mouvement qui s'appelait « Not on my name ». Pas en mon nom. Peut-être que les musulmans de France, puisqu'on essaie de faire un culte musulman français, bon, on a un peu de mal, mais à ce que ces personnes-là se bougent, on va dire, pour justement faire ces signalements.
Prendre des positions peut-être plus en avant sur ces situations.
Mais oui, qu'ils aillent gérer aussi dans leur chapelle, entre guillemets, ce qui s'y passe. Parce que je voudrais juste rajouter quelque chose. Ouais. C'est que ces imams ont compris quelque chose, c'est la fragilité. Il y a la radicalité, mais il y a la fragilité psychiatrique et psychologique. Rappelez-vous, la semaine dernière, on était entre le coup de folie et pas savoir si c'était la radicalité. Le problème, c'est que les deux se mêlent. C'est-à-dire que la radicalité est le réceptacle de la folie. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets qui se heurtent en quelque sorte.
Ce qui devrait se...
Voilà, exactement. Mais généralement, on va...
Ceux qui devraient se bouger, pour reprendre votre terme, c'est en effet, comme disait M. Pupponi, les administrations, des renvois aux frontières.
Mais aussi les musulmans de France. Ouais.
Des renvois aux frontières. Ça ne concerne pas simplement le cas de l'imam, ne sont pas appliqués.
Alors, apparemment, pardonnez-moi de vous couper, l'imam en question avait été, d'après certains récits, expulsé de la mosquée de Sarcelles par des pratiquants qui ne supportaient pas son prosélytisme.
Oui, les anciens.
Ça
répond à votre demande. Mais en tout cas, il devrait être expulsé de France vu qu'on a vu tout qu'il était dangereux, tout simplement. Et les musulmans de France, Nicolas Sarkozy a essayé de s'en occuper. Je ne pense pas que ce soit le rôle d'un président de la République, parce que nous sommes dans un pays laïque, ils doivent s'organiser autrement.
Le ministre de l'Intérieur qui est ministre des cultes.
Ouais. Oui, mais appeler à ce que les musulmans de France réagissent dans un drame comme celui-là, avec tous les dysfonctionnements administratifs je pense que d'abord, on devrait faire le ménage dans la façon dont les administrations sont faites.
C'est aussi une responsabilité de chacun.
Pas tout en même temps, pardonnez-moi.
Oui, c'est une responsabilité de chacun, et donc aussi de ceux qui appartiennent à la communauté musulmane, pour autant qu'on puisse isoler une seule communauté. Mais en l'occurrence, je pense qu'effectivement, il y va de la responsabilité de chacun d'avoir cette envie de former une communauté nationale. Et je crois que c'est bien là le problème, c'est-à-dire que la radicalisation, pour certains et dans certains cas, a atteint un tel degré que l'envie de former communauté nationale n'est absolument plus là, et que c'est bien là, je parlais de bataille culturelle tout à l'heure, c'était une bataille évidemment pour toute une jeunesse qui est encore hésitante, mais vis-à-vis de ceux qui sont tombés dans la radicalisation, c'est bien une guerre dont il s'agit.
Nous marquons une pause à 20h41 sur France Info. Les débats sont enflammés ce soir. Rappel de l'info avec vous, Armel Balogog.
Les taux de dioxine dans l'air sont 4 fois plus élevés que la normale dans les environs de Rouen. Les premiers résultats des analyses de l'organisme Atmo Normandie après l'incendie de l'usine Lubrizol, ça ne va pas rassurer les 800 personnes qui ont manifesté ce soir devant le palais de justice de la ville. Elles demandent une enquête indépendante. 160 enquêteurs fouillent en ce moment le matériel informatique de Michael Harpon, l'assaillant de la préfecture de police de Paris. 5 jours après l'attaque, Christophe Castaner est auditionné par la commission des lois de l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur estime qu'il y a eu un dysfonctionnement. L'habilitation au secret défense de Michael Harpon aurait dû être contrôlée en 2014 lors de son mariage. Plus de 500 migrants en situation régulière vivent dans un gymnase à Nantes. Résultat d'un recensement de la préfecture de Loire-Atlantique aujourd'hui, ils vont être pris en charge progressivement. Raymond Poulidor, hospitalisé en raison d'une grande fatigue. Elle dure depuis le dernier Tour de France, selon son épouse, le champion de cyclisme français à 83 ans.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Killy.
Je m'adresse au juriste Thomas Clé. Ce qui a été dit autour de cette table il y a un instant, au fond, certaines décisions administratives ne sont pas forcément appliquées. On parle d'expulsion d'imams prosélytes. Ce n'est pas aux simples citoyens de s'en charger, évidemment.
Je pense que quand le président de la République appelle à la société de vigilance, il n'appelle pas à la société de citoyens qui vont reconduire eux-mêmes d'action, à la frontière. Non, les ligues de sécurité, les ligues de défense ne sont pas reconstituées en France, et heureusement. En revanche, et parce que je sais que c'est un des thèmes qu'on va aborder dans le temps qui nous reste, on est en train quand même de glisser un peu de la question de la sécurité, du terrorisme, vers la question de l'immigration. Puisque
vous évoquez le débat qui a eu lieu hier à l'Assemblée, qui aura lieu demain au Sénat.
Absolument. On est donc le seul jour où il n'y a pas de débat sur l'immigration. Alors ce débat, évidemment, d'abord tombe au plus mal par principe, parce que là, on voit bien que le gouvernement poursuit ce débat à des fins électoralistes, dans ce qu'il y a de plus bas, au fond, pour ne pas dire de plus abject, et on a le sentiment qu'il court après un électorat d'extrême droite, et moi
Vous êtes d'accord avec ce débat, vous?
Je l'ai déjà dit ici à ce micro, on a voté au deuxième tour pour Emmanuel Macron, pas pour avoir un débat dont Robert Badinter appellerait ça la lepénisation des esprits. Mais au-delà du débat lui-même, il tombe au plus mal, évidemment, puisque là, l'amalgame est facile à faire, hélas, entre le terrorisme et l'immigration. Et ce débat, en plus, est un échec complet. Il a d'abord été reporté une première fois. Hier, il n'y avait personne à l'Assemblée nationale. Et ce gouvernement qui nous a parfois impressionné par une certaine forme de courage, quand, par exemple, il a imposé la sélection à l'université, quand il a posé le thème européen, qui n'est pas toujours très populaire,
il cède aux
partis les plus obscurs de notre pays, et en plus il n'est pas payé de retour, si j'ose dire, parce que précisément il n'y avait personne dans son débat, que les idées qui en sortent sont totalement évanescentes, et qu'en plus il n'y a même pas de texte ou de véhicule pour porter ces idées-là, et je vais vous dire, heureusement.
Yasmina Jaffar, vous êtes d'accord avec ce que dit Thomas Clé, ce débat n'est ni fait ni à faire?
Je jetterai pas tout à la poubelle dans ce que vous avez dit. Je trouve que c'est intéressant qu'il tombe maintenant, justement, parce que ça permet de mettre, encore une fois, des mots et une définition. Quand Emmanuel Macron parle de l'immigration, il parle de toutes les immigrations, et on comprend plus, c'est très flou. Il y a l'économie, il y a les étudiants, il y a les familles regroupées, donc, et puis il y a les réfugiés. Donc, tout est assez mélangé, on sait pas de quoi on parle. Mais aujourd'hui, que ça tombe à un moment aussi dramatique, ça permet justement de dire les choses, parce que je ne veux pas laisser ce débat à Monsieur Dupont-Aignan, je ne veux pas laisser ce débat à Éric Ciotti, qui tout le week-end a exagéré dans sa façon de dire les choses. Et je crois qu'il faut, parce que depuis 40 ans, on ne traite pas ce sujet de l'immigration, et on fait des amalgames absolus, parce que justement, encore une fois, on ne nomme pas les choses. Alors Manuel Valls a essayé de les nommer à sa façon, en employant le mot guerre, pour un autre sujet qui est le terrorisme, mais par rapport à l'immigration, aux étrangers et à la façon dont ils doivent être intégrés, et ça c'est un mot très important, et il faut absolument le redécorer de sa valeur, parce que il faut intégrer les gens, savoir les faire exister dans notre communauté, faire en sorte qu'on fasse communauté nationale.
Tout le quinquennat sarkozyste a été là-dessus.
Non, mais justement, Nicolas Sarkozy.
C'était affligeant.
Oui, mais c'était affligeant parce que Nicolas Sarkozy a été véhément dans sa façon de faire en parlant d'identité nationale. Et ça a été assez violent parce qu'il a opposé les Français les uns aux autres. Alors qu'Emmanuel Macron, même s'il a employé le mot quota hier et que c'est la première fois que c'était le cas.
Il avait lié la sécurité et l'immigration. En fait, il les avait liés.
Voilà, et c'est infâme.
C'est infâme.
Le mandat de Nicolas Sarkozy nous a fait énormément de mal. Donc il faudrait aujourd'hui parler de ce débat de façon plus apaisée, avec un peu de culture.
Alors, puisque vous avez évoqué, Yasmina Jaffar, l'opposition, je reviens, moi, je quitte le sujet de l'immigration et je reviens à l'acte terroriste survenu à la préfecture de police de Paris. Justement, l'opposition, du moins certaines personnalités, ont réclamé, ça et là, la démission de Christophe Castaner. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, Roselyne Fèvre. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit ce matin Christian Jacob, qui est le président du groupe LR à l'Assemblée, candidat à la présidence des Républicains, sur France Info, et qui est revenu sur les zones d'ombre de cette attaque terroriste.
Comment un individu radicalisé a pu être présent aussi longtemps dans ce qui peut être et apparaît comme le Saint des Saints, c'est-à-dire nos services de renseignement de la préfecture de police de Paris. Comment sa hiérarchie n'a pas pu se rendre compte de sa radicalisation? Comment il a pu avoir accès, faire des copies, ramener chez lui des fichiers avec ses adresses? De quelle manière ils ont été utilisés? Est-ce qu'ils ont été transmis à qui? Comment? Dans quelles circonstances? Comment le ministre aussi a pu être ainsi dépassé à ce niveau? Il y a des incompréhensions après la série d'attentats que la France a suivi. On ne comprend pas ce qui s'est passé.
Le ministre dépassé à ce niveau, dit Christian Jacob. Roselyne Fèvre, il y a une tentation du retour du politique dans ce type de débat, comme avec l'immigration d'ailleurs. Hein.
Complètement. Oui. C'est évident qu'il faut en tirer les conséquences, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a une forme d'incurie, de pauvreté intellectuelle, à dans le fond ne donner comme solution au problème la démission d'un ministre. Est-ce que c'est ça
donc
dont
c'est
on
pas
va
le sujet pour vous.
Pardon.
Non. Vous, c'est pas le sujet.
Alors, c'est le degré zéro de la politique.
Mais nous sommes d'accord et vous l'avez dit tout à l'heure et c'est l'argument que vous aviez employé. Moi, ce que je
Sophie
pourrais
Drabinelle.
Juste ajouter à ce débat-là, c'est que quand même.
Phrase, mais bon. Allez-y.
C'est que Christophe Castaner a manifesté à plusieurs reprises des faiblesses et qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui est quand même le fruit d'un certain nombre de faiblesses. Depuis, par exemple, on parle le 1er mai quand il a parlé trop vite, ce qui est toujours le cas et toujours son problème, en disant que la Pitié-Salpêtrière avait eu des agresseurs qui étaient rentrés. Pour le jeune Steve qui est décédé à Nantes, il a parlé trop vite aussi. Pour les Gilets jaunes, c'était quand même compliqué.
Oui, mais
il y a eu un certain nombre de défaillances chez lui. Alors évidemment qu'aujourd'hui nous sommes dans la. Mais bien entendu qu'aujourd'hui nous sommes dans la continuité de l'État en termes de sécurité, etc. Mais c'est quelque chose qui.
C'est un sujet qui, à mon avis,
il a un peu pris le bâton pour se faire battre.
C'est
si
un
je peux
sujet
me permettre.
Qui. Oui, Sophie, vous n'avez pas tort, mais je pense que c'est un sujet qui doit venir en son temps.
Mais bien entendu, c'est
la priorité aujourd'hui.
La politique
va se
trouver
dans l'Union nationale.
Qu'est-ce que ça pourrait bien changer d'avoir la démission de Christophe Castaner à ce stade?
Ça ne change rien, c'est juste qu'il parle à leurs militants.
Qui sont à la direction du renseignement de la préfecture de police. On a un système qui ne fonctionne pas. Ça fait déjà des années qu'on dit qu'il y a un État dans l'État qu'il faut revoir. Christophe Castaner, honnêtement, il n'est pour rien.
Mais bien entendu qu'il n'y est pour rien.
Mais là, je pense que c'est le degré zéro de la politique. Et j'observe que Christian Jacob, qui est, comme chacun sait, le futur leader.
Ils sont tous en campagne, il faut l'avoir
voilà,
en tête.
Mais n'appelle pas la démission, à l'inverse d'un certain nombre de ses coalitionnaires qui ont cette faiblesse d'esprit.
Absolument.
Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir à propos de l'attaque terroriste survenue à la préfecture de police de Paris. Dans une poignée de secondes, Vincent Giré, le directeur de la rédaction de France Info, va nous rejoindre pour une respiration. Nous allons revenir sur ce bel événement survenu aujourd'hui aux Échos et à France Info, à Radio France et à France Télévisions avec l'opération Média en scène. Mais pour l'heure, tout de suite, le rappel de l'info avec vous, Armelle Balogog, à 20h50 sur France Info.
Un lycéen mis en examen dans le Val-d'Oise, il a agressé l'un de ses enseignants vendredi dernier. Le professeur souffre d'un léger traumatisme crânien, il est hospitalisé. Il voulait confisquer le téléphone portable de l'élève, il téléphonait dans le couloir alors que c'est interdit dans l'établissement. Pas de revendication connue, pas d'acte d'allégeance découvert pour l'instant après l'attaque à la préfecture de police de Paris. Laurent Nunez l'assure ce soir, le secrétaire d'État est auditionné devant la commission des lois de l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est aussi entendu. Il affirme que 40 individus radicalisés ont été écartés ou sont suivis au sein de la police. Les agriculteurs ont manifesté leur détresse partout en France. Aujourd'hui, des blocages et des opérations escargots pour dénoncer l'agribashing contre aussi les traités de libre-échange et les arrêtés anti-pesticides. Les footballeuses françaises ont fait le job dans la difficulté. La sélectionneuse Corinne Diacre se félicite de la victoire de ce soir, 3-0 contre les Kazakhs. C'était le premier match des tours de qualification pour l'Euro féminin de football de 2021.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Bonsoir à vous et bienvenue Vincent Giret, le directeur de France Info. Il y a de nombreux débats autour de cette table et il y en a eu aussi pour Médias en scène aujourd'hui. Belle opération.
Oui, Médias en scène, c'est un festival sur les médias de demain. Bon, et c'est la rencontre entre les professionnels et le grand public. C'est à ciel ouvert, c'est une réflexion à ciel ouvert sur l'évolution des médias et toutes les questions qui se posent. On sait combien, et vous le savez fortement ici aux informés, pendant toute la crise des Gilets jaunes, vous en avez beaucoup discuté, de la façon dont les médias avaient été montrés du doigt, la façon dont la défiance se sentait très fortement dans ces manifestations, et plus largement auprès d'un public assez large, malheureusement. C'est une question pour nous, c'est une question que nous avons traitée. Je dirais, aujourd'hui, il y avait près de 5000 personnes. C'est vraiment un succès public très très fort.
Et public très large avec beaucoup de jeunes.
Beaucoup de jeunes. Et la première question que nous avons traitée, c'est la question de la confiance. Dans des multiples panels, débats, rencontres, comment on recrée du lien? Comment on recrée de la confiance? On avait des étrangers qui sont venus, des Américains, des Anglais, réfléchir avec nous à cette question-là. La France n'est pas un cas isolé. Le taux de confiance dans l'information est plus faible en France.
Un grand niveau de défiance pour
le
coup.
Et c'est le niveau de défiance le plus fort en Europe, même plus fort que le Royaume-Uni. Il y a 24% simplement des Français qui ont confiance en l'information spontanément. C'est très faible. Et ça a baissé de 11 points cette année avec la crise des Gilets jaunes. Voilà, donc c'était un sujet majeur, bien évidemment, de discussion avec toutes les parties prenantes.
Avec Vincent, évidemment, un point fort, un temps fort, une sorte de fil rouge finalement de cette journée en partenariat France Info avec nos amis des Échos. Ce sont les fausses nouvelles, les fake news, qui sont une menace pour la démocratie.
Mais clairement, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une crise de l'information qui est très forte, qui pollue le débat public, qui fragilise nos institutions, tout simplement parce qu'il y a eu pour l'information une sorte de tremblement de terre et puis un tsunami. Voilà, on a été envahi d'informations parce que chacun d'entre nous est un média à lui tout seul, et donc voilà, il y a une sorte de saturation de l'information et dans laquelle il y a bien évidemment des rumeurs, des intox et des manipulations. Il y a eu un rapport très sérieux du Reuters Institute qui montre que dans 70 pays, donc y compris les démocraties, il y a eu des manipulations d'officines ou de services plus ou moins étatiques, manipulation de l'information. C'est extrêmement préoccupant.
Yasmina Jaffar, vous voulez intervenir?
Oui. J'ai deux questions à vous poser.
Qu'est-ce
qui a motivé la première année? Donc ça, c'est la deuxième année de la création de cette journée. Et surtout, quelle évolution vous avez vue? Parce qu'en même temps, il y a 24% des gens qui font simplement confiance à l'information. Mais là, vous dites qu'il y a eu des jeunes. Et en un an, je pense que vous avez aujourd'hui plus succès que l'année dernière. Et qu'est-ce qui, d'après vous, explique...
Alors, sur votre première question, c'est assez simple.
Qu'est-ce qui explique cet engouement, finalement?
Oui, voilà, c'est presque paradoxal, vous voyez.
Je crois, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester enfermé dans nos corporations, dans nos métiers, pour discuter de ça. On a besoin d'un contact direct avec l'opinion publique, avec le grand public. Donc il faut réfléchir, se confronter. On le fait avec France Info. On était à Toulouse il y a pas très longtemps pour discuter de la problématique de l'information. On est parfois très vraiment pris à partie. Les débats sont parfois très vifs, mais on a besoin de faire ça. On ne rétablira pas de confiance sans un contact direct. Et puis s'il y a quelque chose qui a changé, alors je vais le dire de façon positive là, parce qu'honnêtement, j'ai entendu aussi beaucoup de choses très enthousiasmantes, y compris de la jeune génération. Ce qui remet de la confiance, paradoxalement, c'est l'affaire du climat. C'est le réchauffement climatique. D'accord. Parce que ça redonne un souffle, un sens, un imaginaire au journalisme. Et là, il y a une envie, une appétence des rédactions et des jeunes générations de dire « mais soyez avec nous ». Venez discuter de ces sujets-là et sans propager la peur, l'inquiétude, etc. Montrant aussi qu'il y a des solutions.
Alors que vous créez de l'appétence sur ce plateau, Vincent Géry, puisque Roselyne Feff veut vous questionner également.
Oui, vous parliez, vous aviez rencontré des Américains. On voit que la presse américaine est quand même d'une bonne tenue. Est-ce qu'en France, il n'y a pas un problème dû aussi au modèle économique? C'est-à-dire que l'on a vu que le New York Times là avait engagé une quarantaine d'éditorialistes. Donc aujourd'hui, est-ce que il n'y a pas un problème aussi de qualité parce que le modèle économique n'est pas très fort? On sait que les pubs Google, les GAFA mangent toutes les pubs. Est-ce que aussi la qualité n'est pas due au modèle économique?
Tout à fait. Je peux compléter la question.
Oui.
Et la détention d'un certain nombre d'organes de presse par des grands patrons de l'industrie, est-ce que c'est pas aussi un problème?
Alors la question des modèles économiques, bien évidemment, a été abordée. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur tout le spectre des sujets, aussi bien l'innovation technologique, la puissance des GAFA, la question de la rentabilité des modèles économiques. Bon, et par exemple, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'idée qu'il puisse y avoir des fondations qui portent des médias comme le Guardian, par exemple. Il y a d'autres exemples aux États-Unis. Les grandes fondations américaines, aujourd'hui, qui autrefois dépensaient de l'argent à l'étranger, ont réinvesti parce qu'aujourd'hui, il y a des territoires entiers, on appelle ça les « news deserts », en anglais, une cartographie d'États, en tout cas de territoires considérables dans lesquels il n'y a plus de médias locaux. Bon, et donc ça, bien évidemment, c'est un défi majeur.
Allez, Vincent Géry, il y aura d'autres tant d'événements sur France Info entre-temps, et avec nos amis des Échos, vous donnez rendez-vous pour une troisième édition,
j'imagine. Allez, bien sûr, plus que jamais.
Ça sera dans un
débat continue.
Il est temps de clore ces informés de France Info avec vous, Sophie de Ravinel, la une du Figaro demain.
Nous porterons sur l'hommage national.
L'hommage national d'Emmanuel Macron. Yasmina Jaffar, La Ruche Média.
Oui, tout pareil, l'hommage national et le discours.
Roselyne Feff, votre rendez-vous sur France 24.
Oui, il y en a plusieurs, mais on va celui de jeudi, donc 17h15, politique avec Jean-Marie Colombani de Slate.
Merci à vous Thomas Clé également et Vincent Giré d'avoir participé à ces informés. Pour ma part, je vous dis rendez-vous demain soir. Bonne soirée sur France Info.